cadeau, vous a dit.
Bonjour.
Avec mon gagnant, monsieur Paul Mirabel, monsieur Daniel Morin, Tanguy Bassureau et nos invités, Louison
et Mathieu Sapin.
Voilà, chacun son tour. C'est le patron, hein, Mathieu Sapin, j'ai l'impression.
Ah c'est un peu le taulier, boss. Hein.
C'est un peu
c'est
le taulier.
Ouais.
On sent ouais.
Mais bon, je pense que
on
Louison,
sent le mafieux.
En réalité...
Enfin, il a du mal pendant ses réunions, quand même. Oui. Il a un petit peu de mal.
Carnet de campagne, ce n'est pas Philippe Bertrand, c'est le nom de cette bande dessinée qui a réuni donc Louison, Dorothée de Montfred, Coco Pello, Mathieu Sapin, Lara et Morgane Navarro, six dessinateurs, six créateurs de bande dessinée qui, là, ont chacun suivi la campagne présidentielle, ont suivi, en tout cas, des candidats. Ouais. Et on va voir. Il y a beaucoup de off the record d'ailleurs qui sont dans cette bande dessinée.
Bah oui. C'est l'intérêt de la BD.
Ouais, ouais, mais t'as le droit. Si c'est off, t'as pas le droit normalement.
Bon,
si.
Tu rigoles ou quoi maintenant tous les off. Il y a les off. Alors celui-là c'est off, mais vous pouvez le dire.
D'accord, ok. Donc tout ça est publié chez Dargaud. Alors quoi faire comme blind test, à ton avis, Paul?
Les off.
Campagne.
Campagne.
Ça va?
Oui. Ça va, Paul? Arrête toujours. Tu le brutalises là tout de suite.
Au contraire, je lui donne
mais
la parole.
Ouais, mais tu vois, il a
non,
peur.
Non, ça se voit dans ton regard. Il y a de la brutalité, Nagui. La fausse douceur.
Non, il sait que je l'aime. T'as froid, Paul?
Non, ça va. Pourquoi?
Mais parce que t'as un truc qui s'appelle.
Là, c'est inquiétant, Nagui, quand tu dis tu as froid, Paul.
Oui.
Tu as très froid.
Approche-toi.
Tu vas bien, regarde-moi quand je suis avec toi.
Tu vois qu'il y a là?
Approche-toi.
On dirait un petit chat effrayé.
Là, t'as chaud. Là,
t'as chaud.
Voilà, voilà.
Là, t'as chaud.
On va faire un petit blague. Allez, allez.
On
ça va être quoi le thème?
Allez, on y va.
La campagne.
Morgane,
oui,
c'est Benabar.
Parfait.
Pardon.
Parfait.
La campagne.
T'es pas obligé de dire pardon après Benabar.
C'est lui qui devrait le dire.
Ah, il le fait.
À la campagne.
À la fin de chaque chanson, on conseille du pardon.
Désolé.
Ça, c'est Denis Zot.
Ah oui.
À la campagne. De l'authentique.
Ah, mais tu la connais?
Ouais!
Du feu de cheminée.
Ouais, est-ce que tu viens? N'oublie pas les paroles. Viens! Tu verras, c'est cool.
Quand on m'invite.
Oh là là, arrête! Enfin, tu
non,
ça t'étonne ou quoi, toi?
Je vais pas suivre.
Qui chante ça?
Tu es né dans une
Daniel. Daniel.
Oui, Daniel.
Trio.
De nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la Véma.
Ça sent la vie
du monde.
Bah non, justement.
Non.
Nous étions Daniel et moi au concert de Trio.
Ah,
rien.
Bah, ils ont grandi, on a
rien
grandi avec eux.
Bah, c'est le public surtout qui a vieilli.
Oui,
bah,
on a vieilli avec
rien.
Eux.
Du coup, au bout d'un quart d'heure, on est parti.
On s'est
dingué, on trouvait
rien. Ouais, ouais, ouais. Et t'allais directement voir les fournisseurs qui étaient au ministère de,
juste en face.
Du budget.
On est parti en bateau.
On vous entend.
C'est vrai?
Oui.
Oh, check, check, one, two, check, check, micro.
Avec modération.
Voire pas du tout.
Pas du tout.
Du monde
qui chante ça?
Daniel.
Oui.
Fleur.
Oui, joli.
Ça, ça vient de loin, ça.
Ah ouais.
Country
voulant dire?
Campagne.
Oh, joli.
Je suis bilingue.
C'est réel. C'est bon, hein?
Ouais. Ton ami?
Ouais.
Allez, on va faire une petite anecdote.
Non.
Private joke. Si.
Ah oui.
Si.
La première.
Il y a 8 ans.
Ah oui, voilà.
Je téléphone à Leïla pour lui parler de l'idée de venir sur France Inter. Et là, elle me dit, est-ce qu'on peut s'appeler plus tard? Je suis au concert de Damon Albarn. Donc, faut reconnaître qu'elle a marqué un tout petit peu des points. Je dis, goût musique au top, quand même. Mais en même temps, petite veste. Tu proposes de travailler. Elle fait, non, là, je suis en concert. Vous pouvez me rappeler? Vous pouvez me rappeler?
Et c'est sur scène.
Moi, une fois, j'ai téléphoné à Damon Albarn. Il m'a dit, je suis avec Leïla, tu peux me rappeler plus tard.
C'est pour ça que
ça, c'est le mois dernier. C'est le mois dernier.
C'est ça. Qui chante ça?
Leïla.
Oui.
William Scheller.
Joli. C'est quoi soupir? Si, t'as soupiré.
Tu es sympathique.
Tu cherchais
campagne. Il est dur aujourd'hui, le blind test.
Il est pas dur. On a une bande ici qui s'appelle Carnet de campagne. Il y a une chanson avec Carnet, une autre avec campagne.
Et les deux aussi.
Irréprochable pour l'instant. Il a fait pire. Hein.
Ah oui, ça je te confirme. Qui chante ça? Ah, ça c'est la même, ok,
c'est
d'accord.
Même.
Et celle-là. Ah ah.
Daniel.
Oui.
Campagne.
Pas loin.
Leïla Sardou.
Il écoute des heures.
Inattendu. Improbable. Et voilà. J'ai cru que Daniel allait me doubler parce que si Daniel prend la parole, comme ça, c'est que c'est Sardou.
Non.
Tous ces jours, ces nuits à courir.
Je la connais même pas.
Écoute.
Moi non plus.
Non.
Ces heures difficiles et grises.
se sont enfuis au premier cri, aux pleurs de ce nouveau-né.
Bonjour. C'est mardi.
Ces pleurs, ces cris de bébé.
Olé. Ah voilà.
Qui chante ça?
La 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 life is life.
Non.
Non. Swedish House Mafia, non, c'est pas ça. Ah non, c'est. Sheryl Crow?
Non.
Johnny Mitchell?
Non. Dolly Parton?
Johnny Mitchell avec ce.
Mais c'est pas bien, quoi.
C'est après avec Star. Allez, c'est mon reset.
Écoutez, écoutez le refrain. Exactement. Country Roads. Donc, il y a de la. Non, là, là tu l'as perdu. Là,
tu l'as perdu. C'est West Virginia, mais ok.
Non, c'est Country Roads, c'est la chanson qui a été maintes et maintes fois reprise. Oh. Non, c'est le groupe qui avait repris notamment le I Will Survive pour la Coupe du Monde.
Cake?
Non.
Ah bah non. Et bah.
Ah merde.
Bah trop tard.
Si, c'est pas Swedish
Housebound. C'est pas grave.
Hermès.
Pour l'instant, Morgane 1 point, Leïla 2, Daniel 2. Il y a campagne dans le titre, tout se joue là-dessus.
Daniel?
Ouais.
Jean-François?
Non.
Toute
la semaine vous
avez craint.
Leïla.
Non.
Paul,
dans
essaye.
Les parents?
Non.
C'est pas ceux qui disent mettre tes baskets.
Vous ne trouverez pas. Non, c'est un mec seul.
C'est Jérôme?
Non. Écoutez la voix.
Dans le grenier sur le
on peut passer des airs. C'est pas le titre?
Dans ces champignons sont du grenier.
La maison de campagne.
La maison.
Charlie Chaplin.
C'est un truc de yéyé quoi.
Un exemple. Un
mais je vais vous aider. C'est l'un des plus grands auteurs-compositeurs de la chanson française.
Daniel. Daniel.
Non.
Daniel Berger.
Exactement. C'est Michel Berger, la maison de campagne. Je suis jeune.
J'ai failli dire je viens de
faire. Il avait quel âge? 5 ans.
Il n'était pas né.
Ah, c'est ça l'écho.
Il n'était pas né, il n'était pas né. Victoire de Daniel Morin.
Oh, ouais.
Et merci d'accueillir Louison et Mathieu. Ça va.
France Inter, la bande originale.
Tu m'as appelé.
Avec Nagui.
Toujours.
Bienvenue, ravi de vous accueillir à nouveau dans cette bande originale pour ces carnets de campagne. Je vais commencer, et pas que pour des raisons de politesse, par vous, Louison. D'abord, comment ça va?
Ça va.
Bon, ça va. Et comment ça s'est passé? Comment le patron, le mafieux de la bande dessinée française vous a contacté? Parce que il y a beaucoup de mise en abîme en fait dans cette bande dessinée où on comprend que chacun avait une quarantaine de pages à livrer, chacun a plus ou moins choisi son candidat à suivre, voire deux pour
plus
certains.
Plus ou moins, parce que plus je crois Louison,
Pas le choix. Non mais d'autres oui.
Le pire c'est que j'ai choisi.
Ah vous avez choisi Anne Hidalgo?
Enfin, j'ai choisi la gauche. Et la win.
Parce que... Et la win.
Et la win.
Oui. En fait, quand Mathieu m'a.
On se suit par ce genre de van alors.
Quand Mathieu m'a contacté, il m'a dit je sais où tu habites. Donc forcément, bah, j'ai dit oui. Et puis après.
Ça sent la menace quand même, c'est un peu menace.
Mais c'est scandaleux.
Et puis il m'a dit est-ce que ça t'intéresse? Et j'ai dit bien sûr que ça m'intéresse. Mais je savais qu'à l'époque, j'aurais peut-être quand même pas mal de choses à faire, ce qui était le cas. Et donc je voulais faire un candidat ou une candidate qui ne prendrait pas trop d'énergie. Et qui pouvait, je l'assume totalement.
Et qui pouvait abandonner même.
Elle avait un mi-temps.
Or, en fait, je pense que j'ai fait un mauvais choix tactique. Parce que ça a été pire. Mais bon.
Oui, parce qu'ils se sont dédoublés, il y a eu des rebondissements.
Ça a été Dallas.
Avec,
quand ça veut pas, ça veut pas.
Avec Taubira, donc avec Hidalgo, avec.
Avec elle-même, hein.
Oui, c'est ça.
Avec la vie, tout simplement.
Mais il faut dire que vous arriviez avec une espèce de laissez-passer, vous aviez suivi François Hollande, donc, et vous aviez des contacts et des facilités pour avoir le 06 directement.
De Christiane Taubira aussi.
Et qui est un 07.
Qui est un 07, c'est l'info.
Mamie Louison est connectée avec Christiane Taubira.
C'est vrai.
Mais non, grâce à François Hollande, c'est François Hollande qui vous balance les numéros.
De Taubira, non, je l'avais déjà.
Non, d'Hidalgo, oui.
D'Hidalgo, peut-être. Un ancien président, quoi.
Un ancien président de
gauche. Un ancien président socialiste qui s'appelle François et qui est vivant. Bah écoutez, vous faites. Il y en a deux.
Qui est dans le ministère secret, peut-être.
Peut-être.
Oui. Et alors, Mathieu, vous vous êtes retrouvé donc avec cette idée que vous aviez déjà vécu cette notion de suivre. Vous aviez l'habitude de suivre des personnalités, des élections, mais là, se démultiplier comme ça par 6. C'est vous, c'est Dargo, c'est quelle
a été
le défi ?
C'est une idée qui a germé dans mon cerveau malade, mais c'est en discutant avec Coco Pello, donc qui est un des 6 ouais. contributeurs. Coco Pello avait fait cette BD sur l'Assemblée nationale qui s'appelle Palais Bourbon, où il était allé voir un peu tous les partis, il avait des entrées un peu partout, et en discutant avec lui, je me suis dit, mais finalement, ce qui serait marrant, c'est de suivre cette campagne présidentielle, mais comme les journaux, comme les télés, d'avoir plusieurs agents qui s'infiltrent dans tous les...
Oui, comme une rédaction avec des envoyés spéciaux, voilà. et chacun allant sur le terrain, prenant voilà. le train, prenant des bus...
dans des endroits improbables, on va jusqu'en ça. Grèce...
Non, mais il y a des ouais. scènes avec Jean Lassalle qui ouais. sont totalement ah, oui. dingues.
Génial.
Et pour reprendre la question, est-ce que l'on a évoqué, avant que vous n'arriviez dans ce studio, les off, il y a énormément oui. de bulles où était clairement écrit « Je vous raconte ça, mais vous ne l'écrivez pas ».
Oui, bah ça c'est le principe.
Hein, oui.
c'est...
ça n'existe plus maintenant.
D'abord, oui, les off, c'est devenu un truc un petit peu galvaudé. Mais aussi, nous, le contrat qu'on avait avec les équipes, c'était de leur dire « Cette BD va sortir après l'élection ». Donc
le plus rapidement possible.
Le plus rapidement possible,
vous voulez.
Rapidement ouais, possible mais après. Donc ça ne va pas jouer, ça ne va pas peser sur la campagne. Et donc, allez-y, quoi, soyez vous-même.
Et donc, vous aviez le droit de révéler certains off après le résultat du deuxième tour.
Est-ce que ça va toujours dire quelque chose ?
Ouais, voilà. Après, moi, je ne demande pas la...
Le off, ça veut dire encore quelque chose quand on suit à l'année ou pendant très très longtemps un parti et on ne peut pas s'amuser à trahir les off.
Et qu'il faut créer un rapport de confiance.
Voilà. Oui. Vous, oui. dans votre mission, là, qui est temporaire...
Vous vous en foutez.
C'est pas grave, en fait.
D'une part, on peut se griller, voilà. mais d'autre part, quand un homme ou une femme politique dit des choses devant vous... Il se doute qu'il prend ce risque et s'il le fait exprès, je pense à Sandrine Rousseau par exemple, qui
Dorothée
Monfred.
La communication téléphonique de voilà. Sandrine Rousseau, elle est totalement dingue parce que on sent d'abord le malaise qu'il y a eu chez les écologistes.
Ah bon
on sent la tension, on sent même qu'elle n'est pas la bienvenue à Lille, si j'ai bonne mémoire, qui est sa terre natale ou en tout cas de prédilection, et elle le dit clairement. Il serait trop content, pour certains en tout cas, que j'abandonne, que je me retire, donc je reste, mais que pour les emmerder.
Voilà, exactement. Et donc, Dorothée de Monfred, qui suivait les Verts, elle appelle. Dorothée, elle connaissait pas trop la politique. Elle suivait comme tout le monde, mais elle avait jamais été sur le terrain. Et donc, elle se retrouve face à quelqu'un comme ça qui lui balance des trucs très, très salés. Elle se dit, qu'est-ce que je fais de ça? Est-ce que c'est. Pourquoi elle me dit ça? Et alors, je lui dis, si elle te le dit, c'est que. Voilà.
Elle veut que ça sache.
Voilà.
Et alors, tous les auteurs, pratiquement, vous appellent régulièrement en disant, on vous envoie des textos avec il s'est passé ça, je fais quoi, Mathieu? C'est-à-dire, vous étiez vraiment un rédacteur en chef.
J'étais le capitaine de cette aventure, mais en même temps un capitaine communiste, dans le sens où on avait tous les mêmes conditions, les mêmes nombres de pages, et puis l'important, c'est vraiment un collectif, c'est vraiment un bouquin politique aussi dans ce sens-là, où chacun, n'est-ce pas, Louison ?
Parle ! Dis oui, monsieur !
Dis oui, monsieur ! Non, mais il avait surtout l'expérience, en fait, Mathieu, c'est donc
vrai.
Quand on avait un doute...
Enfin, vous aussi ?
Oui, mais moins que lui. Et puis il est plus beau en plus.
Oh, oui,
c'est le
sûr.
Chef et c'est lui qui dit. Non, mais en fait, on avait une discussion
beau,
à 6.
Ça dépend qui le dessine.
Oui, c'est toujours beau, Mathieu. Non, mais c'est vrai quand on avait un petit. Moi, j'ai eu un petit doute justement sur cette histoire du numéro de portable dont en fait je me suis jamais servi. Et Mathieu m'a dit. Oh, tu lui montreras la page. Tu lui montreras la page, c'est un peu la façon de dire, on s'en fout, non? Donc, alors, tu lui montreras la page, je ne lui ai pas montré la page.
Alors, Louison, on a compris comment elle avait choisi son camp, plus qu'autre chose, ou son planning. Comment les autres se sont décidés? Il y avait des affinités, justement, il y avait des envies.
Vous des affinités pas trop, parce que.
Ouais, non, mais.
Là, c'est ma question.
J'essaye. Non, mais.
On a Morgane Navarro qui se sent un peu mal, quand même. Voilà.
Restons avec Dorothée, déjà, avant de parler de Morgane. Dorothée, auteur jeunesse, plutôt.
Oui, alors, Dorothée, on se connaît. Depuis long... enfin, moi, je connaissais un peu pratiquement tous les membres du collectif.
Bah, il vaut mieux, oui.
Sauf Lara, que je connaissais pour son travail, mais pas personnellement. Mais surtout, le gros morceau, on savait il y a un an déjà que Marine Le Pen serait
candidate.
Au second tour.
D'accord.
Et donc, je me suis dit, il faut en premier lieu que je trouve quelqu'un qui accepte, qui soit assez fou pour suivre Marine Le Pen.
Et comme il avait écrit Ma vie de Réac.
Voilà, Morgan, il avait fait ça, Morgan Navarro, et il avait aussi surtout fait une bande dessinée très drôle sur Cyril Hanouna qui va se présenter à une élection. Exact. C'est une fiction, je précise, mais il s'en était très très bien sorti. Et donc je savais que s'il était assez fou pour faire ça, il pouvait
tout faire.
Il pouvait tout faire. Et voilà. D'ailleurs, on le salue parce qu'il écoute en ce moment, et puis il peut dire qu'il a le Covid ou pas.
Non,
il a pas le Covid.
C'est off.
Voilà.
Tu lui montreras la page.
Et donc il a.
Je vais méfier de vous.
Il a accepté, je ne sais pas s'il a beaucoup réfléchi sur le moment où il a accepté, donc à partir de là, c'était plus facile de composer le reste.
Et il avait deux candidats à suivre.
Et à l'époque, Éric Zemmour n'était pas du tout encore dans le paysage, on en parlait comme un truc très improbable. Donc ce n'était pas le sujet au moment où il a accepté, puis après c'était trop tard. Et en effet, quand Éric Zemmour, quelques mois plus tard, s'est engagé, il a dit « je fais !» Et puis je dis « ok, vas-y ».
Là, quand on aime, hein, on est spontané. Hein.
On prend la main comme ça.
Et la mise en abîme se fait aussi avec vos analyses, vos sentiments, vos ressentis, votre analyse sur la situation internationale et sur l'Ukraine. On sent que vous êtes vraiment très éclairé.
Mais depuis le début, il y a cette espèce de petit compte à rebours jusqu'à
ouais, vous le sentez monter, ouais.
À la crise.
Non, au contraire, il ne le sent pas.
Il sent monter de temps en temps.
Si. Alors. Pour trancher.
Dites oui.
Ce qui est intéressant, c'est que nous, on faisait les pages au fur et à mesure.
Ouais.
Donc, on est comme tout le monde. On
n'a
pas de boule de cristal, on ne sait pas ce qui va arriver. Et quand arrive ce déclenchement de la crise en Ukraine, de la guerre en Ukraine, c'est à ce moment-là que je me souviens que quelques mois plus tôt, je suivais un déplacement d'Emmanuel Macron qui n'était pas candidat, qui était président. Et il a vaguement parlé au détour d'un déjeuner auquel j'ai assisté, d'un coup de fil qu'il devait avoir avec Biden et Poutine au sujet de l'Ukraine. Et sur le moment, je me suis dit, ouais, bon, et alors? Et quelques mois après, je me dis, mais en fait, voilà, tout était là, ça se trouve, il lui a mal parlé ce jour-là, ou j'en sais rien.
Et, c'est toi, d'ailleurs.
Ouais, ça se trouve, c'est de votre faute.
Ben oui, peut-être, parce que...
Vous voulez pas montrer la page.
Voilà. Moi, je l'ai entendu, en tout cas.
Et juste pour finir, parce qu'après, ils vont être... Il y a aussi Lara, donc, dans l'équipe, qui suit...
Mélenchon.
Et aussi Roussel.
Fabien
Roussel, pardon. Et puis donc Coco Pelot, comme il avait cette expérience sur l'Assemblée nationale, je me suis dit, les Républicains, c'est pas mal, parce que c'était comme un panier de crabes à l'époque, c'était avant la primaire.
Donc il fait Pécresse et Lassalle.
Oui, mais avant, il avait même suivi Bertrand et tout.
Qui est convaincu d'être au second tour.
Voilà, il a essayé un peu tout le monde, quoi.
Ah non, et qui est tellement sympathique, Bertrand. Quand on lui demande, est-ce que vous voulez suivre par des sondages, non.
Il y a même les plans des bureaux avec qui se trouve à quel étage, qui est à côté. Ouais. C'est extrêmement drôle.
Ah, on infiltre tout.
Et puis vous aussi, il faut quand même préciser.
Ah oui, c'est vrai.
Vous avez travaillé.
Il est tellement généreux, il s'oublie à chaque fois.
Oui.
Il s'oublie, ça peut être interprété.
Également. Alors, avec ça dépend de
naturellement, comme j'avais déjà suivi pas mal de déplacements d'Emmanuel Macron, je me suis dit, je vais suivre
le candidat de gauche.
Le candidat de gauche, Emmanuel Macron. Mais qui a mis du temps, comme vous avez suivi, à se déclarer. Donc j'ai eu du temps, finalement.
C'était un vrai faux suspense, dans la mesure où il y avait des réunions régulièrement dans le QG en marche.
Le QG en marche,
voilà, du Rocher, à côté du théâtre Tristan Bernard.
C'est ça.
Ouais.
Avec des vannes faites par Castaner, je crois que c'est lui qui dit, de toute façon, au pire, j'irai moi.
Oui, Castaner peut avoir de l'humour.
Il est connu pour ça.
Et c'est ce qu'on apprend dans cette bande dessinée.
Il y a quand même un tri aussi à faire entre l'information, j'ai envie de dire, essentielle pour son côté historique, et l'anecdote pour la vanne. J'imagine aussi que certains cherchent à faire de l'humour devant vous en disant « je vais marquer des points, je serai un peu le sympa de la BD », non ?
Il nous oublie assez vite, hein,
ouais, en vérité. Ce que j'allais dire. C'est qu'on est assez vite transparent, et tant mieux, parce que c'est comme ça qu'on...
Oui, mais vous avez quand même toujours un carnet à la main. Même quand on dit c'est off, pas d'enregistrement, pas de caméra, on a le droit au carnet.
Non, mais oui, bien sûr. Mais par exemple, alors je balance toujours tout de suite du lourd, mais à la fin, je me retrouve dans le Falcon présidentiel.
Comme d'hab, j'ai envie de dire, mais sans vomir.
D'ailleurs, le président a fait une allusion à cette malheureuse séquence de où j'étais malade dans ce même Falcon quelques années plus tôt. Mais donc, comme quoi, ça marque les esprits. Mais
surtout la moquette. Il y a toujours cette odeur là de vomi.
Il est tellement brûlé, celui-là.
On l'appelle le siège sympa.
Il est sympa de vous embarquer à nouveau. Hein,
voilà. Mais pour dire que là, je sais pas si c'était du fait que je sois là ou pas, mais en tout cas, il était très naturel. Il balance des putains, des je sais pas quoi. Enfin, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir les gens en vrai, comment ils sont au naturel.
Ça s'appelle Carnet de campagne. Il y a plus de 240 pages. 40 pages, oui, 6 fois 4, quoi, en fait, c'est ça. Chacun a vraiment fait ses 40 pages.
Je vois qu'on a fait des études supérieures. Ouais,
ok, on le prend comme ça, c'est parti. Justement, voici celle qui ne vous aime pas.
Et qui n'a pas fait d'études.
Venge-moi, Morgane Gagnant.
Ah Mathieu, Louison, je vous aime pas. Et Mathieu, vous savez très bien pourquoi. Qu'est-ce qu'on avait dit? Estimez-vous déjà heureux que ça se finisse pas devant un tribunal, quoi. J'adore semer ce genre de doute quand t'es un petit peu bougon et qu'on te demande ce que t'as et que tu dis rien. Et que le monsieur en face, il préfère marcher sur une mine antipersonnelle plutôt que de soulever ce « non mais y a rien ». Et après tu lâches juste un petit « non mais tu sais très bien pourquoi ». Tu laisses passer
ça,
deux, trois bégaiements.
C'est odieux ça.
Tu laisses passer deux, trois secondes et après tu droppes la bombe. Bah si tu sais pas quel est le problème, c'est qu'on a un vrai problème. Et en vrai, il se passe rien, tout va bien, mais il faut une bonne raison d'aller se détendre au yoga, quoi. Donc Mathieu, voilà, là c'est pareil, parce qu'en vrai, je vous aime bien. En tout cas, je salue votre travail, parce qu'elle a dû être spéciale à suivre cette campagne présidentielle. Non mais pour nous, les humoristes, c'était génial. Franchement, il y avait qu'à écouter une déclaration pour avoir un an et demi de vanne. C'était le salon de la blague à Porte de Versailles, cette présidentielle. Moi j'avoue que le stand Mélenchon, c'était mon préféré. Il y avait plein d'activités olfactives, et le 24 mai, on a détruit le stand de colère, c'était chouette. Mais la prochaine fois, faites un truc doux pour vous, quoi. Enfin, vous voulez pas suivre une élection de Miss Régionale ou un truc un peu sympa? En plus, Louison, vous avez un peu suivi Anne Hidalgo pendant sa campagne. Et vraiment, je veux pas marcher sur le territoire de blagues de Tanguy Pastureau, mais vous le dites vous-même, j'ai l'impression d'avoir assisté au naufrage le plus long du monde. Et c'est très dur. C'est très dur, cette sensation de savoir qu'on va perdre, savoir qu'il y a aucune chance, mais y aller quand même et se battre. Parce qu'on se moque d'Anne Hidalgo, mais c'est un peu ce qu'on fait tous les jours, non? Se fighter en sachant que ça sert à rien, tout ça. J'ai arrêté mes médocs, hein. Vous me dites quand ça commence à se voir. Mais moi, par exemple, tous les matins, je me coiffe avant de mettre un casque de scooter pendant une demi-heure. Est-ce que c'est pas la plus belle analogie de nos existences? Faire 1h30 d'elliptique en sachant que tu vas manger 9 tacos derrière. Putain! Depuis le début, je suis pas boulimique, je suis socialiste, en fait. C'est génial. Lutter pour perdre quand même. Partir en week-end en amoureux, en bête somme. Alors que tu sais que si tu pars en bête somme, bah, c'est déjà que t'es plus amoureux. On lutte! Tu te regardes charger la Punto en me disant que peut-être, et puis ton mec démarre en disant « Allez, en avant, Guingamp !» Et tu sais que tu seras sur Tinder avant la Ferté Bernard. Donc, Louison, je comprends que vous ayez été un peu fasciné de voir si près les rouages d'un échec, parce qu'on analyse toujours les mécanismes de la victoire, alors qu'il y a un côté assez flamboyant dans la débâcle annoncée. Moi, je trouve, j'ai trop de tendresse pour les perdants, pour ceux qui se battent. Vous voyez, par exemple, quand Nagui, il commence une phrase et que lui-même, il sait pas où elle va terminer, mais il est là. Il balance des COD comme des grenades, il lâche rien, il redouble de synonymes, il y va, et après, il y a Leila. Après, il y a Leïla qui arrive avec une cibière verbale pour le sauver. Franchement, pardon, c'est sublime, quoi. Non, mais dire qu'il y a des gens qui se paient des places pour Roland Garros quand moi j'ai ça tous les jours, c'est de la voltige. Bref, moi j'aime perdre. Je trouve ça fascinant. Moins fascinant que vos BD, mais fascinant quand même. Et si vous voyez pas ce que je veux dire, franchement, c'est qu'on a un problème.
Bravo.
Merci, quand même.
Morgane à Toulon en spectacle vendredi.
C'est vrai que c'est l'art de perdre. L'art de perdre, et vous le racontez tellement bien, Louison, mais est-ce qu'on ne s'est pas complètement tous acharnés sur Anne Hidalgo? En fait, en voyant ces pages-là, son propre camp en interne, quand ça veut pas, à chaque fois. Et je me dis, qu'est-ce qu'on a été? On a été dur avec Hidalgo, quel que soit notre avis politique, en tout cas, la considération d'un candidat ou d'une candidate.
Alors moi, j'espère que j'ai pas été dure, parce que justement, c'était pas le but. Ouais. Tirer sur l'ambulance, c'était. Non, mais c'est vrai, on peut être juste. Et un peu cruel, mais pas être plus. Oups, je casse le matériel. Justement, je voulais pas. J'ai trouvé ça très violent, l'absence de politique au premier rang, le dernier meeting au Cirque d'Hiver. Il y a personne pour parler avant elle. Il y a juste Valérie Donzelli qui dit la culture c'est bien. Et hop, dernier meeting parisien. Enfin, c'est quand même. Moi, j'en ai observé quelques-uns des meetings.
C'est ce qui s'était produit pour Ségolène Royal aussi, quand elle était en campagne.
Et encore, Ségolène Royal avait quand même eu un petit moment de « on y croit ». Et après, ça a été un peu plus violent. Ouais. Là, dès le départ, c'est vrai que l'investiture, c'est des ministres qui se décident 2 heures avant de prendre le train de quand même y aller parce que c'est plus sympa. C'est assez cruel.
Non, mais on peut rajouter à ces femmes qui ne sont pas soutenues par leur propre parti, Valérie Pécresse aussi.
C'est ça. Ah bah, les trois femmes.
Donc c'est la condition. 4, oui. Et puis Marine Le Pen, elle, qui est au contraire fer de lance de son parti et leader incontesté. Ouais,
mais il y a quand même eu un moment où elle a été très lâchée pour Zemmour, qui était un homme.
Non, mais elle a été
en retrait. Elle s'est dit, j'attends avant d'en prendre plein, non pas que ce soit quelque chose d'admirable, mais je pense que ça a
elle
été
a bien
plus...
géré, elle a bien géré
elle
cette
a
campagne.
Super, elle a super bien géré, ce qui n'a pas été le cas de Pécresse, c'est-à-dire des autres candidates. Mais quand on voit, y compris, pardon, Christiane Taubira aussi, c'était tout ça était très, très bizarre.
Oui, mais dans les candidates dites de premier plan, parce que Christiane Taubira, c'est encore une autre histoire, c'est une déclaration tardive qui commence par une « j'y vais pas », qui tout d'un coup a rendu une partie de la gauche complètement...
schizo.
Folle, quoi, parce que se passait-il? Mais vraiment, dans les candidates Hidalgo, Pécresse...
Mais même dans ceux qui soutenaient Christiane Taubira, il y a eu une espèce de déception sur les discours, sur la manière dont ça se passait, sur le manque d'allant qu'il y avait justement autour d'elle. J'ai dit une bêtise.
Non, au contraire, non, je suis d'accord. C'est-à-dire qu'il y a eu un espèce de, de truc où ça démarre, et puis en fait, non.
Sauf qu'elle a pris le même bashing que Hidalgo sur le long terme, que Pécresse sur le long terme. Elles ont quand même souffert.
Le mot est toujours le même, c'est elle n'a pas les épaules.
Ouais,
c'est ça.
Et pour en revenir, en revenir sur. C'est pas que de la faute des autres, pour en revenir sur Valérie Pécresse, même si c'est pas vous qui l'avez suivi, mais je sais que vous avez quand même relu cette BD tous. C'est la manière, et ça on l'a pas inventé, on l'a tous vu, la manière dont elle surjouait son intervention, je sais plus si c'était au Zénith ou dans une grande salle. Et où, à l'intérieur même du parti, ils se disent tous « Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe ?»
C'est pas là, juste ça l'intérieur du parti, ça sonnait tellement faux que tout le monde était obligé de le reconnaître.
Là, pour l'instant, on dit les troupes, il n'y a pas d'enthousiasme dans la garde rapprochée, mais tout le monde sentait que ça sonnait faux.
Oui, mais on peut aussi se demander qui lui a dit de faire comme ça, autour d'elle. Parce qu'elle ne s'est pas réveillée un matin en disant « je vais nous faire du Saint-Jean-Perse et je vais... » Et je vais arriver avec ma grosse voix d'homme en disant « Oui,
vous m'avez manqué !»
Voilà, donc c'est quand même que quelqu'un lui dit « Hé Valérie, j'ai une petite idée pour le Zénith, ça serait quand même pas mal que tu en imposes, que tu montres que t'en as. »
Et ça, il n'y a que les femmes qui ont des conseillers, les hommes n'ont pas de conseillers.
Si, mais ils les écoutent pas.
La salle n'en a...
Ah, je pense que la salle, c'est un autre problème.
C'est l'alcool, le problème.
Oh non, ça c'est naturellement fermenté. Non, je pense que vraiment, c'est... Moi, je l'ai observé qu'une seule soirée et je m'en suis jamais remise. Je ne sais pas comment Coco Pelo a fait.
Il y a une scène où ils sont en retard, où ils doivent partir. Lui, il est à table en train de manger. Oui. Et au moment où son conseiller dit « Il faut vraiment qu'on y aille très en retard », il dit « Apporte-moi du rouge ». C'est-à-dire le mec, il ne veut pas sortir de table, il veut son
pigeon. Mais vous l'avez dessiné, on dirait le bibindum Michelin, il est trois fois plus grand que tous les autres.
Alors, mais il est grand.
Non, mais pas trois fois plus grand que les autres. Et ce qui est drôle, c'est pour montrer qu'il y a un accent, vous mettez des petites notes de musique. J'avais trouvé ça très malin, son petit accent chantant.
Il chante.
Non mais alors, sincèrement, avec le recul, je ne sais pas si vous avez fait d'ailleurs une à part la photo de fin, entre guillemets, qui avait été faite, je pense, avant.
C'était les photos du début.
Ouais, avant, c'est les photos du début, c'est quand on s'est mis encore.
Elle est à la fin de l'album.
Parce que là, vous avez l'air en forme.
Oui, c'est ça.
Mais est-ce que vous êtes retrouvé comme pour débriefer tous les six, ou se faire une bonne bouffe?
On dormait ensemble. On était... On avait un fil.
Je croyais que vous aviez une femme. Mathieu.
Oui, aussi.
Alors, on a tous une femme.
Elle était là. On a tous une femme. On a tous sa femme.
Voilà. Elle est charmante. Karina, bisous.
On avait un fil de discussion et qui était ouvert 24 heures sur 24 finalement. Ouais. Et donc, on savait tout le temps où était qui. Ça va, c'est français comme phrase.
La presse boucle, quoi. La boucle de presse.
Et qui faisait quoi. Ouais.
Oui, mais moi, ce qui m'intéressait, c'était une fois que la BD était terminée, que chacun pouvait, au-delà de savoir ce qui s'était passé, voir le travail de l'autre, voir les vannes, voir les...
Ah oui, mais on s'envoyait les dessins.
Oui, on a tous les brouillons, les carnets, on a tous été en lien pendant 3 mois. Et pour répondre à la question, on ne s'est pas vraiment quitté. D'abord, demain, on a une signature à Bordeaux. La semaine dernière, on en avait une à Paris. On échange plusieurs fois par jour les uns avec les autres.
Et alors, comment, globalement, tous les six, avez-vous trouvé cette campagne? C'est-à-dire, vous en avez été déçus. Finalement, tout s'est passé comme prévu. Enfin, quel est votre regard avec du recul?
On l'a vécu tous les six. Donc là aussi, on s'est rencontrés tous les six parce qu'encore une fois, moi, je connaissais Mathieu, je connaissais un peu Coco Pelo. Les autres, je ne les connaissais pas. Je connaissais le travail de Dorothée, évidemment. Donc on s'est tous rencontrés, donc cette campagne elle a été incroyable pour ça. On aurait pu, en fait, c'est ce qu'on s'est dit après, c'est qu'on pourrait suivre n'importe quoi, comme on est tous les six, c'est très chouette.
C'est
beau ce que je dis.
Cœur. Ouais.
Mais est-ce que c'était vraiment n'importe quoi, Mathieu Sapin, cette campagne? Parce qu'on a eu le sentiment quand même globalement, c'était pas une campagne comme les autres, malheureusement avec l'actualité, qu'elle soit sanitaire ou qu'elle soit meurtrière de Poutine, c'était quand même une campagne bizarre avec tous les candidats qui avaient été dans des dans des élections, comment on appelle ça d'ailleurs
les primaires.
Les primaires, merci. On a l'impression que dès l'instant où il y avait une, il y avait une primaire, ça se passait mal pour le candidat.
Ah ben bah oui, c'était un drame à chaque fois. C'était un mini-drame à chaque fois, mais c'est souvent comme ça dans les présidentielles. Oui. Il y a toujours des surprises, on croit que c'est tiré d'avance, c'est pas du tout.
Mais il y a le fait que c'est une réélection aussi. Enfin, que c'est donc il n'y a pas de nouveauté sur le, quant au président ou à la présidente qui est élue. Et puis, non, c'est vrai que ça prenait pas tellement. Mais nous, ce qui nous a ravis, c'est que donc tous les six, on s'entendait très très bien. Et la bande dessinée, quand on la lit, finalement, c'est plus une bande dessinée sur six auteurs, autrices de BD qui ont des galères et qui essayent comme ils peuvent de suivre le truc. Mais on discute beaucoup.
Il y a une mise en abyme, et là en permanence. D'ailleurs, il y a plusieurs mises en abyme. Il y a la mise en abyme de chacun des six, et puis la mise en abyme des six en même temps, avec les échanges et notamment les screenshots que vous dessinez pour voir comment se passe la communication au sein du groupe. Tout ça pour dire donc que c'est drôle, que c'est bien fait, que c'est intelligent, que c'est carnet de campagne. Même si on n'a pas adoré cette campagne, est-ce qu'on a envie de la revoir et de la revivre une deuxième fois, en tout cas par le prisme de Louison, de Dorothée, de Monfred, de Coco Pello, Mathieu Sapin, Lara et Morgane Navarro. C'est une autre vue, c'est chez Dargo, et c'est publié Dargo Seuil, pardon, pour cette bande dessinée de 240 pages. Voici venir l'homme, Paul Mirabel.
Bonjour Nagui, bonjour Daniel, bonjour Léla, bonjour tout le monde.
Bonjour.
Tout le monde va bien aujourd'hui?
Oui.
Moi aussi, ça va. Ça va, puisque samedi soir, j'ai pu regarder la finale de la Ligue des Champions sans perdre une clavicule, ce qui n'est pas un mince exploit au vu de la période actuelle. Alors pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi, ce week-end, il y avait la finale de la Ligue des Champions au Stade de France, qui a été délocalisée chez nous suite à la guerre en Ukraine. Après, je comprends pas tout à la géopolitique, bien sûr, mais en gros, si Karim Benzema a le ballon d'or, c'est parce que Vladimir Poutine a annexé la Crimée. En gros, c'est ça. Et le petit problème qu'il y a eu samedi soir, c'est qu'il y avait 80 000 places dans le stade pour environ 17 millions de personnes qui voulaient y aller. C'était vraiment très compliqué de pouvoir assister au match. Après, je vous dis ça, moi, heureusement, en tant que chroniqueur chez France Inter, j'ai quand même réussi à faire jouer mon réseau.
Oui.
Et du coup, bah, j'ai pas eu de place. Mais puisque je m'en suis rendu compte après avoir essayé, mais en fait, à part une barre chez SFR, j'ai pas un très gros réseau non plus. Par exemple, moi, mon réseau professionnel, il se limite à Nagui qui m'a enregistré sur son téléphone à Stagiaire Blond France Inter. Nagui, qui lui a un gros réseau par contre, je le sais, puisqu'une fois j'ai vu dans son téléphone qu'il avait le numéro de Tanguy Pastureau, et c'est pas donné à tout le monde d'avoir le numéro de Tanguy Pastureau.
Bah, tu l'as pas.
Moi, une fois, j'ai demandé poliment, il m'a dit laisse-moi tranquille, Stagiaire Blond France Inter. Je sais qu'il a un gros réseau aussi, Nagui, parce qu'à chaque fin d'émission, il dit aux invités on s'appelle, on se fait un déj bientôt, alors que moi, il m'envoie juste des pétitions pour savoir si je veux sauver les loutres en mer Méditerranée. Il le prend mal en plus, c'est quand tu dis non aux pétitions. Une fois, j'ai dit non, il m'a dit ah donc tu veux pas sauver les loutres, Stagiaire Blond France Inter. Je lui ai dit si, Nagui, mais pas un mardi à 14h à la maison de la radio, il n'y a pas de loutres autour de nous, je pense qu'elles peuvent attendre la semaine prochaine. Et donc le problème des événements samedi soir, c'est qu'il y a eu quelques débordements, par exemple des gens qui n'avaient pas de place, qui sont rentrés illégalement dans le stade. On a tous cette folle image de Leïla Kadour Bouzadi qui escalade la grille du Stade de France en criant Karim je t'aime,
oui,
terrible image qui a fait le tour du monde. Il y a même des gens aussi qui auraient été victimes de faux billets. C'était facile à repérer que c'était des faux billets par contre, puisque quand tu penses aller voir Real Madrid Liverpool et que sur ton billet il y a écrit Tombola de l'école Saint-Joseph, c'est qu'il y a anguille sur roche quelque part. Après, il faut dire aussi que le prix des places était excessivement élevé. Moi, je me suis renseigné pour savoir comment ça coûtait de voir Karim Benzema. On m'a dit que la place était à 5 000 €. Moi, j'ai dit au gars, non, je crois qu'il y a quiproquo. Je veux pas racheter Karim Benzema. Je veux juste le voir en vrai. Et une autre explication à ces problèmes, d'après la ministre des Sports, c'est qu'il n'y avait pas assez de billets électroniques et trop de billets papier, ce qui, je cite, a créé des débordements. Donc je suis ravi de vous apprendre que la 7e puissance mondiale peut être débordée par des billets papier. J'espère d'ailleurs que la guerre en Ukraine n'arrivera pas jusqu'à nos frontières, parce que s'ils ont des armes, c'est pas grave. Par contre, s'ils ont des billets papier, on est complètement débordés. On n'a pas été très organisés en plus, nous, pour faire face à ces débordements, parce que la seule réponse qu'il y a eu sur le moment, c'est la préfecture de police qui a tweeté « Ne forcez pas l'entrée au Stade de France ». Et c'est vrai que tout ça, ça a dû bien faire peur aux hooligans qui ont dû se dire bah, « les gars, arrêtez tout, hein, y a des gens qui font des tweets ». Donc, mais je crois que la France n'a pas donné une très belle image d'elle-même au reste du monde. Il y a même un journal italien qui a titré « Non mi piace la pasta à la bolognaise », ce qui veut dire « Je n'aime pas les pâtes à la bolognaise » et qui n'a aucun rapport avec l'événement au Stade de France, mais je voulais quand même le souligner.
Bien joué.
Moi, ce qui m'embête le plus dans cette histoire, c'est qu'il y a beaucoup de polémiques liées au foot en ce moment, alors que c'est censé être une vitrine un peu de notre société, et que là, pour l'instant, la vitrine, bah, elle est un peu cassée. Il y a par exemple eu des incidents pendant un match à Saint-Etienne dimanche soir, peut-être que vous avez vu aussi, durant lequel il y a eu plus de fumigène lancé que de buts. Et c'est pas normal que la meilleure frappe cadrée côté stéphanois, ce soit un fumigène dans la tête d'un CRS. Heureusement, il n'y a pas des incidents dans, je généralise un peu, mais il n'y a pas des incidents dans toutes les compétitions sportives qu'organise la France en ce moment. Il y en a juste eu un notable à Roland-Garros hier, où d'après les autorités, un supporter aurait crié « Allez !» pendant un match. Mais heureusement, au grand bonheur de la sécurité sur place, il n'avait pas de billet papier, donc ils n'ont pas été trop débordés. Voilà.
Merci
tout le monde de m'avoir écouté.
C'est moi, je me suis pas rasé.
Ils ont pas la même couleur de cheveux.
Ça tient, ils ont la même jeunesse.
Ça sert à rien.
D'esprit. Hein. Carnet de campagne chez Dargo Seuil avec donc Louison, Dorothée, de Montfred, Coco Pello, Mathieu Sapin, Lara et Morgane Navarro. Est-ce que la manière dont on dessine un homme politique, et c'est déjà un geste politique?
Une femme politique dans mon cas, parce que j'en avais deux.
Pardon.
Ouais. Et justement, non, mais c'est la nuance, c'est qu'avant j'ai dessiné Hollande et que Hollande, j'avais pas beaucoup de, je m'étais pas posé la question de savoir comment je le dessinais. J'y arrivais. Et là, au début, je me suis dit, est-ce que je la fais pas un peu jolie? Est-ce que je la fais pas un peu, surtout pour Hidalgo, comme on était quand même déjà tous.
Ou est-ce que c'est un cliché de la rendre?
Est-ce que justement, elle a besoin d'être belle, parce que c'est une femme? Est-ce que, enfin, et donc j'ai assez vite tranché et j'ai dit que fallait qu'on la reconnaisse surtout, en fait. Et que j'allais pas en faire une gravure de mode qui
oui,
passe comme ça.
La reconnaître, c'est un dessin. Quand on passe à la bande dessinée, voire à la caricature par moment, il y a un jugement. On peut pas rester objectif quand on fait un dessin.
Alors.
Mathieu Sapin.
Pour donner un élément de réponse.
Il part comme les politiques.
Hein. Ça va vachement bien. C'est un TD qui commence à la fac. Quoi.
Wow.
Non, mais la différence avec des bandes dessinées ou des dessins de presse, c'est que nous, l'album s'appelle Carnet de campagne, car on avait des petits carnets, comme ça, dans lesquels on les dessine en vrai. Et le fait de regarder, d'observer en vrai le sujet, déjà, on dessine différemment de si on le voit à la télé.
Qu'avec l'imaginaire, oui.
Exactement. Enfin, et à force de le dessiner. En vrai, au bout d'un moment, il y a un truc qui s'installe, qui est plus ou moins conscient, mais qui devient le personnage, on se l'approprie, quoi.
Oui, mais comme l'a souligné tout à l'heure Daniel Morin, non, mais on est plus proche pour la salle d'une caricature avec un comment ça s'appelle le personnage dans Tintin,
Astapopoulos.
Ouais. Voilà, où on se dit, ok, là c'est carrément c'est une caricature. Okay. Bah, Anne Hidalgo, non. Tu me montres.
Bah, et ça va, Hidalgo?
Oui, ce que je dis, c'est pas une caricature. Ouais, non, mais Macron.
Non, je vais faire un peu. Elle a une grande bouche et
oui,
tout. Mais
voilà. Zemmour est beaucoup plus angulaire, froid, rigide. Ouais. Mais bon, là, on imagine bien qu'il y avait un peu de volonté de montrer le côté plus dur. Christiane Taubira, c'est pas non plus dans la caricature. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a, et même dans la mise en abîme, beaucoup de personnes autour des candidats viennent vous voir en disant montrez-nous le dessin, est-ce que vous pouvez me dessiner, comment vous me faites, j'espère que je serai pas trop ceci, trop cela. Donc il y a quand même votre regard qui joue.
Oui, il y a un rapport au dessin qui est très différent, évidemment, de nous, c'est ça notre avantage aussi, c'est qu'on nous laissait accéder à des trucs parce que le dessin, il y a un côté sympa. Alors qu'en fait, on est des peaux de vache et qu'on balance des trucs terribles. Mais le dessin, c'est un peu magique. Et en effet, souvent, les gens sont là. Ah, je peux voir le dessin. Comment tu m'as dessiné? Et après.
Exister dans une bande dessinée, c'est le nec plus ultra pour certaines personnes.
Ouais, c'est-à-dire que c'est... Et on n'a pas parlé des journalistes. Parce
et les
qu'on
journalistes,
dessine aussi beaucoup.
Bah, c'est ça.
On dessine beaucoup les journalistes aussi, qui sont parfois surpris de se retrouver dans les albums. Mais pour la plupart, ils sont contents, je crois.
Je crois qu'il n'y a eu même que des contents.
Il n'y a pas eu de dépôt de plainte.
Et souvent, ils trouvent les autres très très bien dessinés, mais eux moins.
C'est vrai. Ouais.
Très souvent.
Bah, c'est comme les imitations ou les caricatures. On ne se reconnaît pas quand on est caricaturé. Se mettre en scène, Louison, se dessiner dans le... Là, encore, on est dans la mise en abîme.
Oui, parce que Mathieu a l'habitude.
Oui, mais moi aussi finalement parce que quelque part, enfin là encore, comme je savais que j'allais pas croquer un grand moment d'histoire pour être délicate, ce qui était non mais bon, c'est jamais hein, encore une fois il y a des surprises, mais c'est vrai que globalement c'était pas forcément écrit comme ça. Je trouvais ça assez rapidement plus intéressant et même plus sympathique à faire pour moi dans le dessin et dans le récit de mettre en scène et de mettre en scène les ratés, enfin et les mauvais timings et les à côté, c'est-à-dire qu'il y a effectivement ma soirée au cinéma avec ma mère, avec le rappel à la réalité de Mathieu qui me renvoie un message pour me dire que le lendemain, Hidalgo présente son programme, car il y avait un programme.
Donc il fallait y aller, quoi
qu'il. Il fallait y aller.
À grande contrôle, où on n'avait jamais mis les pieds.
Non, j'avais résisté toute ma vie, et puis paf, et puis un jeudi matin.
Et puis la symbolique, toujours, et toujours la symbolique.
La voix de garage, que voulez-vous?
Non, mais c'est vieux, n'empêche que c'est super violent. Et que font les conseillers?
Je ne sais pas, mais
il y a
des gens en fait
il y a bien quelqu'un qui doit s'en rendre compte.
Bah, je pense que quand on a vraiment le nez à ce point-là dans le guidon, on ne se rend pas compte.
Non, mais grande contrôle, ça aussi, symboliquement, ça peut être un intérêt. C'est multiculturel, c'est ouvert. C'est, enfin, je veux dire, là, relu à la...
Avec mon esprit vil
et puis avec les événements qui en ont suivi, c'est sûr que le symbole est péjoratif. Mais en réalité, ça peut être un super endroit pour rallier un peu les gens.
Ce
que j'aime bien, c'est votre côté Gaston Lagaffe à chaque fois. D'après le timing que j'ai prévu, normalement, je devrais être à l'heure. Et tout, et là d'un seul coup faut que j'y aille, et là et maintenant mes 70 propositions, merde. Et quand vous enjambez les sièges, c'est... aussi je pars discrètement. Non c'est super bien vu.
Non mais j'ai essayé effectivement de jouer là-dessus, de me dire bon bah de toute façon c'est raté, donc autant y aller carrément, ne pas essayer de sauver les meubles, les pousser directement dans le conteneur.
Et puis c'est drôle, et puis c'est surtout
mais
drôle.
Mais il faut rire de la loose, sinon c'est terrible.
Et les candidats ont pu voir les planches
avant publication, non.
Oui, mais maintenant.
Après, on l'a envoyé un peu à tout le monde. Il y a Yannick Jadot, je crois, qui s'est manifesté.
Oui, qui a envoyé un message à Dorothée.
Et alors, en quel sens ?
C'est une lettre de son avocat.
C'est un contrat fiscal.
Les jeunes sont les laissés pour compte, donc c'est quand même la phrase rengaine.
L'élément de langage qui revient à chaque fois.
Ouais. Ils doivent répéter ça toute la journée. Donc, il l'a lu, qu'en a-t-il pensé ?
Il avait l'air content,
je crois. Il avait l'air content, mais je crois que...
Et rien du président, rien de des autres candidats, rien moi,
j'ai
Zemmour.
C'était un peu bizarre, j'ai eu un mot d'Emmanuel Macron. Mais qui me remerciait pour un bouquin d'avant.
Il a fait une photocopie,
Quelqu'un vient d'être viré, là, dans l'entourage de Macron.
Mais ou alors, il n'avait pas eu le temps de le lire, il était occupé.
Renaud Dely va nous rejoindre tout à l'heure, journaliste politique sur France Info et RTS.
Ça, c'est chic, ça.
Scénariste de bande dessinée politique, qui sera avec nous dans quelques instants. Mais d'abord, la musique dans la vie de Louison, par exemple, en 2009. Vous écoutiez Louison. Cette musique, ce choix, pourquoi ça vous renvoie à quel moment ?
C'est quand j'étais jeune et innocente et optimiste sur la vie.
Ah, il y a très longtemps.
Très longtemps.
C'était en 2009.
C'était en 2009.
Et ce sont vos premiers dessins 2009.
C'est ça, c'est qu'il était, j'étais jeune, mais il était temps.
Ouais, à Marianne, magazine Marianne. Vous y rencontrez Tinius.
Absolument.
Ouais.
Dès le premier mois.
Et c'est là-bas, en fait, que vous allez faire un de vos premiers dessins qui va vous lancer aussi dans le métier. On est en août 2009 et Nicolas Sarkozy fait un malaise vagal. Alors, on le dit en riant, c'est pas drôle du tout.
Bien sûr.
Oui, mais voilà. Non, mais bon, voilà. Et vous faites un dessin où vous le mettez en scène sur une plage avec Carla Bruni qui lui dit chouchou, mets ton bob.
Et chouchou, ton bob est resté dans l'historique familial très proche, parce qu'à chaque fois que je dis chouchou, quelqu'un dit ton bob.
Difficile ou pas, dans une rédaction comme celle de Marianne, de dessiner quand on est une jeune femme ?
Il y a beaucoup de mecs ?
Il n'y a que des mecs à Marianne. Ça s'est un peu amélioré, mais c'est pour ça que j'avais pris Louison. Mon vrai prénom c'est Louise, et Louison ça mettait un petit flou. Honnêtement, moi j'ai des frères,
Très petit, le flou de Louison.
Louison, c'est un nom d'homme, Louison. Vraiment, Louison, c'est...
Ah, j'avais totalement zappé ça.
C'est le diminutif de Louis.
À part Bobet.
C'est déjà pas mal.
Il
n'y
en a pas des kilos.
Louison, c'est normalement, c'est Louisette, c'est pour les femmes, et Louison, c'est pour les hommes.
D'accord.
Et donc, ce point de vue d'observateur d'une dessinatrice femme, à cette époque-là,
C'était comme ça. Moi, je savais que j'allais faire un métier plutôt effectivement masculin, mais ça m'allait assez bien. Et justement, il fallait, sans mettre des gros neuroses partout, il fallait montrer, non pas un point de vue de femme, mais le point de vue de la femme que moi j'étais, c'est-à-dire l'humour aussi, parce que chouchou ton bob, et puis certaines questions qui me touchaient peut-être plus.
Et apprendre à faire pipi aussi vite que les garçons.
Ah ça, c'est important. Quand on a deux frères et qui l'ont permis et pas vous, sur l'autoroute, si vous voulez pas être oublié, c'est important.
Même vous en campagne.
Vous en campagne.
La survie, quoi.
Mathieu Sapin, vous écoutiez vous. Fan de Bob Marley, et vous en avez fait une bande dessinée.
Francis Blatt.
Oui, fan tardif, cela dit. Je n'écoutais pas quand j'étais ado.
Alors, d'où vient cette idée de dessiner, de faire un album avec un héros fan de Bob Marley et de l'appeler Francis Blatt ?
Alors, je pense que c'est une lointaine analogie avec Francis Blake de Blake et Mortimer. Je pense tout simplement.
Vous étiez à jeun ?
Oui, alors non, mais je suis quelqu'un de très très sobre. Et Francis Blatt, oui, c'est quelqu'un qui parle à son poster de Bob Marley. Et c'est un peu comme Jeanne d'Arc.
Comme tout le monde, tous on a fait ça.
Et donc, dans l'histoire que j'avais composée, Bob Marley lui révélait un scoop, un tube inédit. Et voilà, je suis parti comme ça et je me suis bien amusé.
En 2011, Adèle, vous écoutiez.
Louison. Ouais. T'as dit Adèle, vous écoutiez.
C'est vrai ?
Ouais. Adèle, vous écoutiez Louison. Ça me va, hein. Mais c'est pas mal, hein. Franchement.
C'est bien aussi. Nagui.
Adelon. Adelon, vous écoutiez Louise.
C'est pas hyper grave. C'est pas grave.
Ok, d'accord. Louison, vous écoutiez Adèle, Rolling in the Deep, et à ce moment-là.
Et on vous retrouve sur le site voici.fr. Vous dessinez de 2011 à 2014 l'aventure People, en fait. Tout d'un coup, s'intéresser à d'autres sujets que éventuellement les sujets politiques.
J'étais une grande lectrice, ça s'est calmé, mais de Presse People. Et c'est vrai qu'un jour, dans une soirée de journaliste, je croise Christophe Caron, rédacteur en chef de Voici.fr. Et je lui dis, pourquoi on ne fait pas des dessins People ? Il me dit, parce qu'on n'a pas de budget. Je fais, ah oui. Bon, bah trouve le budget et on va faire des dessins People. Et on a fait ça pendant 3 ans, c'était extraordinaire. Et j'ai gardé Christophe comme chef maintenant sur Slate, mais on a arrêté le dessin People.
Et on peut balancer plus d'infos People dans un dessin qu'avec une photo de paparazzi ?
On peut plus s'amuser en tout cas, c'est plus digéré, donc oui.
Et c'était qui votre People préféré ? Entre 2011-2014, qui occupait la scène ?
Oh, je sais même plus, mais je pense que c'était Sarkozy en fait.
Chouchou.
Il y avait un peu de Britney Spears aussi.
Ah, Britney, j'avoue que Britney, j'aimais bien. La famille royale aussi, ça faisait partie des sujets que j'aimais déjà beaucoup et encore maintenant. Et donc, il y avait les Brangelina, comme on disait, donc avec leurs 54 enfants. Et puis, il y avait...
là, est-ce que là, vous avez suivi le procès Johnny Depp
Je regarde ça de loin, mais je suis assez mal à l'aise avec cette histoire, parce que, comme tout procès, c'est plus vraiment...
Il n'y a pas de quoi rire.
Bah, en fait, c'est la justice qui s'en occupe maintenant. Oh, c'est plus de savoir, mais moi, je pense qu'elle est comme ci, je pense qu'elle est comme ça, ou que lui est comme ci. Je suis très mal à l'aise avec les gens qui le détournent et qui en font un objet comique, parce que... On est malheureusement dans un autre temps maintenant.
Vous écoutiez Mathieu Sapin.
Le spleen des petits à l'école, ça les rend marteaux. Peu de chance de s'en sortir.
On va parler de la drogue tout de suite. Il faut qu'on crève la fusée.
Journal d'un journal, Mathieu. Vous avez passé 6 mois en immersion avec l'équipe de Libé.
Oui.
Vous ne connaissiez pas bien Libé, d'ailleurs, dans Carnet de campagne, vous précisez, en fait, vous faites dire, je crois que c'est Castaner, gros, faut pas s'extasier, Libé, c'est lu par 3000 personnes, donc on se calme, il faut la PQR, il faut cibler la presse locale.
Ouais, ils vont apprécier.
Voilà, ils vont être très contents. Comment vous arrivez à faire cette expérience-là, avec Serge Julie en tête, j'imagine.
Alors,
aussi,
Serge Julie n'était plus là.
Il n'était plus là, mais c'était quand même Libé à l'époque, dans la tête des gens.
C'est grâce à un ami photographe, Jérôme Brésillon, qui avait vu une précédente BD à moi, qui était une de mes premières BD d'observation. Il m'a dit, tu devrais faire un truc sur Libé. C'est dans une soirée, un peu alcoolisée, je l'avoue. J'ai dit, ouais, super idée. Et puis le lendemain, il m'appelle, il me dit, ça y est, j'ai vu avec eux, ils t'attendent. Et je me suis retrouvé embarqué comme ça. Et j'ai adoré ça, adoré.
Et pourquoi Libé ? Vous n'étiez pas un lecteur de Libé ?
Il m'est arrivé d'ouvrir Libé, mais j'étais pas abonné, je lisais pas tous les jours.
Et depuis, vous lisez plus ?
Oui, je lis différemment aussi, parce que les signatures, forcément, c'est des gens que je connais. Mm-hmm. Mais quand on suit un journal comme ça pendant 6 mois, c'est passionnant, parce qu'on voit l'actualité en train de se faire. En plus, c'était très, en 2011, c'était très, très, il y a eu Fukushima, la mort de Ben Laden.
Strauss-Kahn.
Et l'affaire des SK en point d'orgue. Et là, quand on est aux premières loges, c'est spectaculaire.
On n'est pas journaliste quand on est dessinateur de bande dessinée, on est plutôt éditorialiste. Ben, on ne peut pas ne pas mettre un peu de
ses opinions. C'est la grande question qui tue.
On est observateur.
Moi, je sais jamais quoi répondre, parce que l'album Carnet de campagne, c'est que des infos vraies. On n'invente rien. C'est que des situations qu'on a observées. Et en même, donc on peut apparenter ça à du journalisme. Et en même temps, c'est très subjectif. On se met en scène, on raconte nos états d'âme, ce qu'on a mangé le midi ou je sais pas quoi. Enfin bon, c'est très très, c'est pas rigoureux. Il y a pas la déontologie journalistique.
Oui, mais tout est vrai. On retrouve tout ce qui s'est.
C'est
tout
le gonzo journalisme cher à Morgan Navarro.
Voilà le gonzo donc de Hunter Thompson.
C'est du journalisme incarné aussi. Enfin voilà, ça existe aussi chez les journalistes, l'incarnation aussi.
Là on devient un peu plus éditorialiste que journaliste. C'est pas que factuel. C'est-à-dire qu'on y rajoute le c'est long, on s'ennuie. Ou alors on sent une hésitation.
Mais c'est revenir sur l'éternel débat de se dire voilà, il y a une presse d'opinion. Quand on lit Libé, on lit pas le Figaro. Quand on lit le Figaro, on lit pas le Canard enchaîné. Donc on est déjà sur une forme d'orientation.
Mais pour moi, la nuance, elle est aussi celle du documentaire. Parce qu'on dit reportage, documentaire. Finalement, on est entre les deux. Et un documentariste, est-ce que c'est un journaliste ? Moi, je sais pas comment répondre à ça.
Il y a une écriture de documentaire. On est auteur de documentaire. Donc il y a un point de vue.
Oui. Mais on est autour de tout ça.
Justement, éditorialiste Renaud Dely, bienvenue à ce micro, Renaud, journaliste politique. Pourquoi la bande dessinée et la politique font si bon ménage ?
Bah effectivement, il y a un vrai. Ça fait maintenant une bonne quinzaine d'années que c'est un couple qui fonctionne très très bien. Je pense d'abord parce que je pense que les personnages, même les personnages politiques, sont de superbes matières. Souvent, alors les personnages en campagne, à la tribune, en meeting, ils sont souvent leurs propres caricatures. Et c'est vrai que le dessin, il a tendance évidemment à exagérer, à forcer le trait pour peindre tel ou tel personnage. Et souvent, Nicolas Sarkozy, quel formidable client c'était pour les dessinateurs. François Hollande aussi dans son genre. Et puis aujourd'hui, on se régale toujours. Donc, je pense que déjà, les personnages, la politique, c'est très incarné. Déjà, c'est souvent des personnages. Et c'est vrai que les BD sont très incarnés, celle de Mathieu, etc. Autour de ces parcours-là, et sont toujours des parcours hors normes.
Puis les vôtres aussi, BD, parce que aussi.
Moi, je dessine absolument pas. J'ai fait beaucoup de BD politiques, j'ai fait beaucoup de scénarios sur Nicolas Sarkozy, Sarkozy et les riches, Sarkozy et les femmes, donc les riches étaient les patrons, Hollande, j'ai fait des BD sur Hollande aussi, sur la famille Le Pen, sur les Balkany.
Qu'est-ce que ça vous donne comme liberté par rapport aux journalistes et éditorialistes que vous êtes ?
Justement, ce qui est formidable, c'est que on peut aller un peu plus loin, c'est-à-dire que dans la
subjectivité.
Déjà dans le rire, dans l'humour. Et je pense que moi, on peut parler de sujets extrêmement graves de façon légère. Je pense que ça nuit pas à la pertinence du propos d'abord. Et pour tout vous avouer, j'aime bien rire.
Ça s'entend là.
C'est une vraie déclaration. Ça.
Merci Daniel. Merci Daniel. Un message approuvé par un professionnel. Et c'est vrai qu'on peut forcer un peu le trait pour le coup. C'est-à-dire qu'à 80-90%, c'est vrai. C'est de l'enquête journalistique. Les récits que je faisais, que j'ai fait dans toutes ces BD, c'est vrai. Et puis en même temps, on ajoute quelques gags de ci, de là. On met en scène des éléments qui sont pas forcément vrais, qui sont pas forcément déroulés exactement de la sorte, mais qui doivent être dans le récit vraisemblables. C'est-à-dire que c'est tout à fait crédible que dans l'histoire, eh bien, tel ou tel gag s'y ajoute et ça donne un peu de piment, quoi.
Est-ce que dans la lignée des guignols de l'info qui n'existe plus, la bande dessinée reprend un peu cette place et finalement peut aider ou plomber l'image d'un homme politique ou d'une femme politique ?
Ça, je pense qu'on en rajoute toujours. Alors, en général, les responsables politiques, selon qu'ils aient gagné ou perdu une élection, ils vont forcer le trait. Alors, ils accusent en général beaucoup la presse, les journalistes, quand même. On en prend toujours pour notre grain. Puis c'est vrai que ça peut être. Ça a été en son temps les guignols de l'info. C'est pas les guignols de l'info qui ont fait élire Jacques Chirac en 95.
Non, mais ça permet de toucher un autre public qui, d'un coup...
Ça permet, c'est clair. Ça, c'est formidable, vous avez raison. Et c'est aussi, moi, l'intérêt que ça a pour moi en tant que journaliste politique éditorialiste, c'est de, grâce à la BD, vous toucher un public plus large, un public plus jeune aussi en général. Plus jeune, moi, j'ai des enfants de copains, ils écoutent pas, à ma grande surprise, ils écoutent pas mes éditoriaux le matin sur France Info.
C'est fou, voilà, incroyable.
Ça viendra. Mais en revanche, ils sont jetés dans plein de BD, notamment j'en ai fait il y a quelques années sur le couple Balkany. Quel formidable client, justement, que ce couple-là, vous imaginez.
Inépuisable.
Inépuisable, et je vous dire que ça plaît même aux jeunes.
Est-ce que justement aussi, il y a l'avantage de la bande dessinée, c'est que, et là, Louison, Mathieu, même question évidemment pour vous, on peut tous permettre en termes de moyens, c'est-à-dire qu'on peut dessiner des hélicoptères, des fusées, des avions, des falcons, des machins. Non, c'est dur. Mais sans avoir un problème de moyens, de budget, quoi.
C'est l'avantage de la bande dessinée, en effet. Alors, les scènes de foule, je vous avoue que c'est un peu fatigant à dessiner, un meeting de 13 000 personnes. Mais
pour ça, j'ai pris Hidalgo.
Surtout que sur la place, il ne pouvait y en avoir que 70 000.
Aussi. Mais pour revenir à ce que disait Renaud aussi, ce que j'aime bien, c'est montrer le réel qui parfois a des allures improbables. Et donc on se dit mais non, mais c'est pas possible. Et quand on est sur le terrain, qu'on voit, on assiste à des échanges ou à des scènes complètement bizarres, le fait d'en témoigner, moi j'adore montrer ça et montrer ces moments qui paraissent presque surréels, quoi.
Et puis dans la situation d'une campagne électorale, il y a un petit côté on achève bien les chevaux, c'est-à-dire ils sont plusieurs au départ et puis c'est celui il craque au fur et à mesure, certains s'éliminent d'eux-mêmes ou c'est leur parti qui les élimine.
C'est ce qui fait la trajectoire de la responsable politique homme ou femme, des trajectoires toujours exceptionnelles, c'est qu'il y a des destins, il y a des coups de théâtre, et alors ces dernières années, vous évoquiez tout à l'heure l'affaire DSK en 2011, et puis voilà, on a eu des coups de théâtre à chaque campagne présidentielle est totalement inattendu. Donc c'est vrai que c'est à ce moment-là qu'ils doivent surmonter des épreuves, etc. Et puis, il y a une particularité aussi au monde politique. c'est pas le seul, vous me direz, mais en tout cas, dans le monde politique, c'est le, me semble-t-il, le plus frappant. C'est qu'en règle générale, les coups que vous prenez, ils viennent de votre propre camp. C'est-à-dire que bien
mais
souvent,
voilà, là,
ceux qui sont supposés être vos amis, vos alliés, en général, c'est plutôt, il vaut mieux pas les avoir dans le dos, quoi. Et ça, c'est quand même, ça crée quelques épisodes cocasses, souvent.
Ça tombe bien, vous venez publier Anatomie d'une trahison, la gauche contre le progrès, quel enchaînement, à l'Observatoire. C'est signé Renaud Dely. Merci d'être venu
Il n'y a pas de dessin, là. C'est un livre sans dessin.
Merci beaucoup.
C'est bien quand même.
Merci d'être
Tanguy Pastureau, bonjour Tanguy.
Bonjour.
De quoi vas-tu nous parler?
Je vais vous parler de la Joconde qui a été entartée. Ouais. Je vais vous dire, j'aimais pas trop cette peinture, mais la crème lui a donné un petit côté sympa quand même.
C'est ça. Mathieu Sapin et Louison sont nos invités jusqu'à 13h.
Bonjour
Gaël,
Mirabel,
Tony Pastureau, Daniel Morin.
Bonjour Nagui.
Et nos bonjour Daniel et nos invités Louison et Mathieu Sapin.
Mathieu.
Carnet de campagne folle chez Dargo Seuil, c'est 240 pages. Et d'ailleurs Louison, quand vous avez su que le défi était que chacun vous fassiez 40 pages, vous êtes dit c'est beaucoup ou c'est pas assez?
J'ai repris du Prozac, beaucoup. Et je me suis dit, va falloir faire très long. Et dans le journalisme, on dit, j'ai pas eu le temps de faire court. Bah là, j'ai eu le temps de faire long. Mais vraiment, ça a été long.
Et à l'inverse, est-ce qu'il y a eu, des moments où il fallait couper des choses où vous êtes dit, d'un point de vue éditorial, Mathieu, parce que j'ai l'impression que
j'ai sabré. J'ai sabré à mort.
C'est vrai?
Non, la difficulté, c'est que comme on faisait les choses en temps réel, on avait de moins en moins de pages.
Et puis ça se croise. On a pas raconté.
Oui. Voilà. Nos pages, nos séquences se croisent, et l'actualité étant de plus en plus chargée, puisqu'on se rapprochait du premier puis du deuxième tour, et on avait de moins en moins de pages. Et c'est pour ça qu'à la fin, les pages sont très 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 denses.
Sauf que ça a commencé extrêmement tôt aussi, que tout est consacré à l'avant dépôt de candidature, même la recherche des 500 signatures pour pouvoir être candidat, jusqu'au premier tour. Le deuxième tour, il y a même pas le débat, par exemple. C'est un truc qui m'a choqué. Pourquoi il y a pas le débat?
J'étais très frustré parce que il y a cinq ans, j'avais pu être dans les coulisses du débat. C'est je sais pas pourquoi, il y avait pas moyen.
Vous avez essayé, on vous a refusé.
Ah bien sûr, j'ai essayé par tous les moyens. Non, après, faut dire.
Et pourquoi vous racontez pas que vous avez essayé?
Parce que j'avais presque plus de pages, mais aussi, ce qu'il faut dire, c'est que
ça, c'est évident.
Vous appelez Dargo, vous dites rajoutez-moi une page, il a
rajouté. J'ai bien essayé.
Vous avez encore vomi, Mathieu, dans les coulisses du second tour.
Mais j'ai eu le Covid, cela dit, dans l'entre-deux tours.
Voilà,
ça j'en parle pas, mais j'ai eu le Covid et pendant 5 jours j'étais HS. C'est dommage.
Non mais c'est pour ça qu'il n'y a pas le débat.
Non, vraiment,
ouais. Il était au fond du seau.
C'est vraiment pas de bol.
J'étais au bout de la vie.
Est-ce qu'il y a une frustration, Louison, dans la campagne que vous avez suivie? Est-ce que vous avez, avec le recul, des regrets ou...
La frustration faisait partie du jeu, parce que dès le début, Mathieu nous a dit, vous allez être frustrés. Il y a des choses que vous voudrez raconter. Non, pas ça, l'autre. Et,
Elle pense qu'à ça.
C'est dur.
Et donc, quand on sait qu'on va être frustré, c'est moins frustrant, déjà.
Une grande phrase.
Donc, c'est la vie de Daniel. Ça, c'est la vie de Daniel.
Il l'a tatoué en bas du dos.
Je vois.
Je ne veux pas le voir.
Carnet de campagne avec également Dorothée de Montfred, Coco Pello, Lara, Morgane Navarro. Vous avez constitué cette bande, Mathieu Sapin, à partir du vécu des uns et des autres dans le monde politique, dans les rédactions, sur la capacité à finalement suivre la politique et la dessiner.
Ce qu'on voulait faire, c'est on voulait faire les Avengers de la politique, de la BD politique.
Et vous êtes Hulk.
Et moi, je suis.
Ah non, il n'y a pas Hulk.
Non, je suis celui. Le professeur Xavier.
Ouais, moi, je ne sais plus comment il s'appelle. Ouais. Je vois.
Dans les Avengers.
Bref.
Et voilà. Donc non, avoir des personnalités complémentaires, mais diverses. Et puis on est vraiment. Voilà, très différent, quoi. Je ne ressemble pas à Louison. Louison ne me ressemble pas.
Par contre, Louison a un regard sur elle beaucoup plus positif que vous, votre regard sur vous. C'est-à-dire que.
Ah oui, il en faut bien.
Ouais. C'est les cheveux.
On sent que. elle est bien dans sa peau. On sent que vous, là, vous êtes en train de vous balancer vous auto-vanner, quoi.
J'ai quelques années de plus.
Justement,
je fais, à propos de ça, vous parliez du débat. J'ai suivi le débat, mais pas dans les coulisses. J'ai suivi le débat au QG En Marche. Et ça, je ne l'ai pas raconté. Donc, petite anecdote. Donc, au QG En Marche, il y avait toutes les équipes d'Emmanuel Macron, et ils ont 22 ans d'âge moyen. Et quand Emmanuel Macron parle de Gérard Majax pendant le débat, moi j'y étais là avec
ils
mon ami...
Ils ne savent pas qui est Gérard Majax.
Voilà, j'étais avec mon ami Joël. Johan Sfar, pour tout vous dire. Ouais. On était tous les deux présents dans, dans cette assemblée. Et au moment où Emmanuel Macron parle de Gérard Majax, gros blanc, on sent que personne ne sait de qui on parle. D'ailleurs, Morgane ne sait pas non plus.
Mais d'où, d'où est sortie cette vanne, sans blaguer.
Voilà. Et donc, j'ai dû expliquer aux gens qui était Gérard Majax. Voilà.
Ouais. C'est mon anecdote. Vous pensez que s'il avait pris David Copperfield, tout le monde aurait mieux compris la vanne ou pas? Bah, c'était après Copperfield que Majax.
Mais il aurait dû prendre qui alors?
Éric Antoine.
Éric Antoine.
Sylvain Mirouf.
Mais là, on parle grand magicien.
Mais Emmanuel Macron doit avoir un truc avec Majax parce que quand je suis dans cette fameuse scène dans l'avion à la fin,
il le dit.
Il me parle de Majax. Et c'est là qu'il m'a révélé. Moi, je savais pas que c'est Gérard Majax qui fait le générique du grand blond avec la chaussure noire. Au début, il y a des cartes à jouer comme ça. On voit des mains qui manipulent les cartes.
D'accord.
Là, c'est Gérard Majax. Est-ce que vous le saviez?
Non.
Eh ben non. Voilà.
Toujours
non,
la bonne anecdote de Macron. Hein.
Merci Emmanuel Macron.
Ah oui, merci.
C'est fou, c'est fou. Carnet de campagne. Mais n'empêche qu'il c'est rempli d'anecdotes. Et je ne sais pas si le regard que chacun, chacune a sur son candidat, sa candidate change après avoir lu la BD. Il y a quand même une part de révélation, mais finalement ça ne fait que... Non, mais il y a une part de révélation qui... Toutes ces révélations ne font que confirmer ce que l'on peut penser des uns ou des autres. Il y a peut-être Mélenchon qui n'est pas très 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 présent. En densité, je sais pas.
Il a suivi et Mélenchon et Roussel.
C'est ça.
Mais quand même, il y a un dessin original de Jean-Luc Mélenchon dans l'album.
Exact, hein, exact. Signé JLM. Ouais.
Voilà.
Où il se trompe de pouce, de côté de pouce. C'est ça. Il a jamais su où était la gauche et la droite. On va continuer de parler.
Ça, c'est une façon de voir. Voilà. Il a toujours.
Enfin, oui.
Il a toujours le poignet à gauche.
Voilà.
Quoi qu'il. Carnet de campagne chez Dargaud Seuil. Avec nos invités Louison et Mathieu Sapin jusqu'à midi et demi. Voici ton Divation.
Hier, j'étais là à consulter les messages que m'envoient les patrons des autres médias pour tenter de m'attirer, puisqu'on est en plein mercato. Et moi, je suis un peu le Mbappé de la chronique.
Et, oui.
Et ça veut faire pareil. C'est-à-dire que je vais finir par re-signer ici et déclarer oui, j'ai beaucoup échangé sur mon avenir à France Inter avec Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy. Parce que c'est ce qui s'est passé. Il y a juste François Hollande qu'Mbappé n'a pas écouté, puisqu'il lui suggérait de rejoindre la SPTT pétante de Tulle. Bref, je répondais à Nicolas Taverneau, président du directoire du groupe M6, d'aller se faire foutre dans le Limousin avec Karine Le Marchand et deux bœufs, quand mon regard fut attiré par un article du site de Libé à propos de la Joconde. La Joconde, c'est cette dame qui sourit depuis 1503, l'inverse de Martine Aubry qui, depuis la même période, ne sourit pas. Alors la Joconde, c'est ce tableau qui est planqué au Louvre derrière trois rangées de touristes chinois et quatre de touristes saoudiens qu'on reconnaît au fait qu'ils cherchent à l'acheter. Hein, parce que le radeau de la Méduse, ils ont du mal à se projeter, l'absence de yacht, le fait que le pont du radeau n'ait pas été ciré par des esclaves, enfin bon. Et hier, Libé.fr titrait « La Joconde a été entartée ». Alors premier réflexe, je me suis dit « Tiens, quelqu'un a dû prendre la Joconde pour Bernard-Henri Lévy ». Parce que traditionnellement, ça a toujours été lui qu'on entarte. Sur 20 ans, il s'est pris plus de tartes que Pierre Hermé si tous les matins il avait sauté à pieds joints dans sa vitrine. Donc je lis l'article, après avoir répondu par SMS à Delphine Ernot, présidente de France Télé, que je n'étais pas intéressé par ses primes du samedi soir. Elle m'a répondu d'accord, mais au moins viens chez moi, on regardera Meurtre à Sangatte en buvant de la 8-6. Bon, avec 17 emojis et aubergines, en fait, donc j'ai décliné. Donc, je vous raconte l'histoire. Ça date de dimanche. L'histoire date de dimanche. Yafou, le musée du Louvre, les gens se presse dans la partie des antiquités égyptiennes, pensant voir Nagui, venu réserver son sarcophage pour un futur que tout le monde, excepté Richard Berry, espère lointain, au cri de « Pousse-toi, la Ramsès, que je m'y mette ». Quand soudain, un homme jette une tarte sur la Joconde. Donc stupeur chez les touristes saoudiens qui se mettent à crier « Ah bah clairement, ça fait baisser sa cote, je vous la prends à 16 milliards au lieu de 17 ». Donc là, amoureux de l'art que vous êtes, vous dites « Mais par la toison pubienne trop dense de la dame qui a montré son oui-oui à Gustave Courbet, la Joconde a-t-elle été abîmée ?» Eh bien non, non, car depuis 1956, elle est protégée par une vitre sécurisée. Ce qu'on aurait dû faire à l'époque avec BHL. Je veux dire, il aurait eu un peu de mal à se déplacer, mais avec un bon isolant sonore, il aurait pu dans le même temps échapper aux prestations live d'Ariel Dombal, sa femme, qui a explosé toute la gamme de dos à coups de glotte. Avant 56, il n'y avait pas de vitre, mais en 56, le saviez-vous, un Bolivien, ces atroces personnes en poncho qui sentent le lama crever comme les intermittents du spectacle chez nous, avait lancé une pierre sur la Joconde, une pierre, l'abîmant, donc depuis vitre. Ensuite, en 2009, une Russe avait lancé une tasse à thé sur le tableau, et dimanche, un Français donc a lancé une tarte. Du thé, une tarte, ce truc, c'est quasiment une après-midi à Chile avec le prince Charles. Donc, aucun dégât, parce que depuis 2005, la vitre est blindée comme Bernard Arnault. Et elle contrôle aussi l'humidité de la Joconde. Et c'est ça qu'on aurait dû faire sur PPDA, je veux dire, il y a 30 ans. On appelait Triba, on y faisait une petite porte-fenêtre autour du pubis, avec une clé surtout quand j'étais dans la Seine, et sa zone humide, il attendait tranquillement Nicolas Hulot pour l'explorer. Quoi. Bon, Enfin, j'en étais là de mes réflexions quand je reçus un mail d'NBC me disant « Hi, Tanguy, we want you to replay Jimmy Fallon on The Tonight Show ». Bon, j'ai répondu « Fuck off, motherfucker, suck my ass », c'est tout ce que je sais dire en anglais, parce que j'ai pas mal écouté Eminem, c'est pour ça. Et je me suis dit « Mais comment peut-on entrer au Louvre avec une tarte ?» Enfin, ce musée doit être géré par les mecs du Stade de France. Et en fait, Libé l'explique, l'homme à la tarte était déguisé en vieille dame, portait une perruque, comme Daniel Morin quand il revient de 15 jours à Mykonos et qu'il a gardé les réflexes de sa vie sur place, et il est venu en fauteuil roulant. Alors forcément, les vigiles, une vieille dame handicapée, il se méfie pas, elle aurait pu avoir 40 pains de plastique dans la culotte que toute l'équipe lui aurait dit « Respect Micheline, on va t'amener à l'ascenseur ». Sauf qu'une fois devant la Joconde, la personne s'est levée de son fauteuil roulant, les touristes saoudiens en pleurs sont tombés à genoux en criant « Allah est grand, c'est un miracle, il s'agit d'Aziza Soubirou », elle a tiré sa perruque, les touristes saoudiens a dit « Ah bah non, c'est un mec, déception », et le type a jeté sa tarte sur la Joconde qui continuait à sourire comme une conne. Et pourquoi a-t-il fait ça? Eh bien pour qu'on pense à la planète. Il a crié « Les artistes, pensez à la Terre ». Alors, juste pour ce qui est des artistes exposés au Louvre, tous sont décédés il y a 200 ans minimum. Voilà. Donc, ils ne vont pas pouvoir agir concrètement. Le problème des morts étant qu'ils sont très passifs. À part Johnny qui mort sort un album tous les 4 mois, en version symphonique, ou a cappella, ou à la flûte de Pan, ou avec des bruits de cuir faits par Laetitia et Jalil dans la cuisine à Saint-Barth. Mais les autres morts, on les entend pas. Et surtout, pardon, mais quel rapport entre le fait de lancer de la nourriture sur la Joconde et celui de préserver la planète? Parce que s'il y a un lien, allons-y à fond, quoi. Balançons des petits filous sur Guernica. Foutons une tranche de cake au citron dans l'arrêt du cul de la statue d'un athlète grec. Non, mais ça n'a aucun rapport. Aucun. L'humanité me désespère. Et maintenant, il faut que je vous laisse. Je dois répondre à Vincent Bolloré parce qu'il veut évincer son fils pour mettre à la tête de son groupe. C'est tellement gênant. Tellement gênant. J'en peux plus de ce mercato.
J'adore quand
tu pètes
une pile.
Tanguy, t'as chaud, quoi.
Qu'est-ce qui t'arrive
quand Tanguy brûle?
Et Tanguy, cet automne qui sera à Pau et à Biarritz. Quand exactement?
À Pau, tu m'étonnes.
Vous verrez.
En octobre, je crois.
En octobre.
Très bien. Carnet de campagne, cette enquête, j'ai envie de dire, autant que ces reportages, ce suivi, cet œil amusé de 6 dessinateurs de bande dessinée, dessinatrices et dessinateurs de bande dessinée autour de la campagne électorale, avec aussi de la musique présente. Il y a des révélations, il y a des scoops. Par exemple, le fait que tout le monde veut avoir Clara Luciani en concert. Il y a même des fausses Clara Luciani. Sur des concerts. J'aime beaucoup les commentaires. Ça s'appelle comment en bande dessinée les comme les didascalies, c'est-à-dire c'est pas les dialogues,
narratif.
Mais les petits trucs, ouais, où il y a marqué là c'est le mec qui est au fond.
Il t'a répondu, c'est narratif.
Ça s'appelle narratif.
Le texte narratif.
Oui, mais c'est
moins joli que didascalie, on est d'accord.
Ouais, c'est pas le nom d'une bulle, si.
Phylactère dans ces cas-là.
Phylactère, c'est la bulle en général, quelle que soit sa forme. Mais quand c'est carré et que ça précise qui est la personne qui est derrière.
Phylactère carré.
D'accord, j'arrête. Et il y a.
Ah là là. C'est bien.
On a reconnu le candidat. Ce qui est bien, c'est
Tu sais tout de suite.
C'est le berger de l'Élysée.
Mais tellement.
C'était le nom de son livre. J'ai lu.
Carnet de campagne. Dit-elle dans un soupir. Et elle a vu d'autres choses.
Oui,
il y a Kado Boudali en termes de culture. À part carnet de campagne chez Dargaud, qu'est-ce qu'il y a?
Eh bien, on va parler de Fayard, qui va être l'éditeur français des mémoires d'une immense star du rock, Mick Jagger.
Springsteen.
Non.
Jean-Patrick Cadevienne.
C'est un chanteur engagé, vivant, absolument. C'est Bono, l'homme qui n'aime pas sa voix.
C'est vrai qu'il a dit qu'il détestait sa voix.
L'Irlandais, absolument artiste, activiste, chanteur de U2, bien entendu, avec des mémoires publiées en novembre 2022 aux États-Unis et la traduction.
Des lunettes de chez Carglass.
Voilà. Et le lendemain, la traduction française chez Fayard. En France, le livre va sortir simultanément dans tout, plein de pays, 15 pays, je crois, c'est assez énorme comme sortie. Est-ce que vous lisez ce genre de bouquin et est-ce que c'est aussi une matière première pour éventuellement faire une bande dessinée? Mathieu, vous étiez venu nous parler d'un album où vous retraciez la vie de Racine et vous avez dû beaucoup vous documenter en faisant un parallèle avec Emmanuel Macron. Donc voilà. Est-ce que ça peut être un sujet, une lecture intéressante pour vous?
Oui, mais moi j'ai peut-être tendance à préférer les biographies aux autobiographies.
Oui.
Parce que souvent les autobiographies, c'est un peu je raconte comme ça m'arrange, quoi. Mais il y a évidemment des moments, je ne doute pas que Bono doit raconter des trucs incroyables, mais c'est souvent, souvent la meilleure personne pour parler de soi, quoi.
Oui. Soit ça manque d'objectivité, soit au contraire il y a une espèce de descente
On escamote les trucs.
Et vous, Louise?
Alors moi, c'est un peu ce que je suis en train de faire actuellement, parce que je fais une BD qui n'est pas encore sortie, mais sur Marilyn, et qui n'est pas une autobiographie, mais qui était Marilyn Dernière Séance de Michel Schneider, qui racontait en gros les 30 derniers mois et les thérapies consécutives de Marilyn. Donc, je suis dedans.
Ouais, ça
mais
peut
elle
être
est morte, donc je peux faire ce que je veux.
Oui, c'est ça, on est tranquille. On n'a pas besoin de, voilà, de demander d'autorisation à qui que ce soit. C'est une lecture proposée. Autre question, ouais. Quel est le point commun entre les maisons d'édition Gallimard, Larousse et désormais Nathan?
Vincent Bolloré.
Non. Non.
Je sais pas.
Des prix? Non, pas des prix. C'est lié au genre de livre que ces maisons publient.
La musique, bande dessinée.
Absolument. Ah, Nathan se met à la BD. Cette maison a présenté un programme de parution allant de 3 ans à l'adolescence. C'est une façon aussi d'ouvrir sur un marché qui fonctionne très très bien puisque la BD c'est vraiment un créneau.
Bédouille.
La bédouille. Le bédouille. Voilà. La bande dessinée est devenue en 2021 le deuxième segment du marché du livre avec 24% du chiffre d'affaires. C'est colossal. Qu'est-ce que tu dis? Et les maisons d'édition s'y collent. Est-ce qu'en BD, on peut travailler pour différentes maisons selon ce qu'on propose? C'est déjà le cas pour vous, Mathieu?
Oui. Non, mais oui, il y a beaucoup d'éditeurs. Moi, j'essaie de faire des choses différentes chez différents éditeurs.
Oui, c'est ça. C'est
mais il n'y a pas de contrat d'exclusivité?
Ça n'existe pas dans l'édition, à la différence de la musique.
Pour des romanciers.
On vous signe pas en tant qu'artiste.
En tout cas, pas en BD. En tout cas, moi, voilà. Ça, on m'a pas proposé de contrat d'exclusivité.
En bouquin, on vous signe pas comme artiste. En fait. On peut pas vous tenir juste à une maison.
Mais après, évidemment, ils préfèrent qu'on fasse tout chez eux.
Ouais. Donc c'est un argument de poids pour négocier, pour discuter, pour envisager de nouveaux projets. Quel genre de projets vous pouvez faire passer qui ne sont pas forcément des projets que la maison d'édition attend ardemment?
Par exemple, c'est aussi lié à... Parce que la plupart de ces maisons dont vous parlez sont adossées à des maisons d'édition généralistes. Oui. Et donc, par exemple, travailler avec un écrivain maison, ça peut être intéressant. Mmh. Ça se fait de plus en plus des bandes dessinées associées à des écrivains... Et donc ça, on peut pas faire ailleurs que chez Gallimard un livre avec un auteur Gallimard.
Bien sûr.
On recevra, et c'est d'ailleurs un événement, parce que c'est, je crois, l'une des premières fois, Riyad Satouf.
Oui, Riyad, il est jamais venu dans cette émission.
Je ne sais même pas à quoi il ressemble.
Il est sympa. Ça
et Louison, vous?
Et pardon, je voulais juste finir. On le recevra, et il a créé sa maison. Est-ce que ça vous travaille, Louison, Mathieu?
J'ai pas le temps. Je prends l'apéro le soir, donc je peux pas non plus...
Faire.
Mais un jour, quand je serai grande, ouais.
Non, mais la démarche, en tout cas, vous questionnez.
Ça veut dire aussi, comme dit Louison, c'est un énorme boulot. Mm. Personnellement, non, moi je me sens pas de faire ça.
C'est tellement bien de travailler avec un éditeur.
Non, mais c'est un état d'esprit, mais Riyad, il n'y a pas de problème.
Mais Riyad, il est marié avec une formidable éditrice en plus.
Ah ben voilà.
Quelle autre.
Le héros du jour, c'est maintenant et c'est Daniel Mora.
Alors mon héros du jour, les amis, aurait dû être ce gardien de zoo jamaïcain qui, pour amuser des visiteurs, a titillé un lion. Oui, il a passé sa main dans la cage, il s'amusait à lui gratouiller les moustaches. Faut-il avoir du courage pour faire cela? Oui, il en faut. Mais faut surtout être sacrément con. La preuve, le lion, ça l'a gonflé, du coup il a bouffé un doigt du gars.
Ah ouais.
Oui, être aussi con, ça redevient presque héroïque. Mais
non. Ce n'est pas le héros du jour.
Actualité oblige, le gardien de zoo jamaïcain à 9 doigts n'est pas mon héros du jour. Non, mon héros, c'est...
Le fromage.
Non. Ah, si vous insistez, je peux vous en trouver un petit. C'est la machine de la porte d'Auteuil, le Terminator des Baléares, le biceps gauche le plus gros du monde.
Ah,
celui qui a la taille d'un jambon, c'est Raphaël Nadal, le king de Roland-Garros. Pourquoi est-ce mon héros? Eh bien parce que ce soir, à 20h45, il sera en quart de finale du tournoi face à Novak Djokovic. Le Serbe. D'un côté, Rafa, qui ne lâche rien. De l'autre, Djoko, qui détruit tout. Le souci, c'est que Nadal, en ce moment, il a un peu un pied en mousse. Il souffre. Et comme Djoko n'est pas du genre à faire du sentiment, ça sent la boucherie. Mais une boucherie épique. Vas-y, mon Rafa. Vas-y, mon champion. Donne tout ce soir. Va au bout de tes forces. Fais-nous encore rêver avec ton coup droit dont la puissance terrasserait un taureau. Donne encore en spectacle ton corps bardé de muscles et recouvert de sueur. Avant de servir, tire encore sur l'élastique de ton slip comme tu le fais avec tant de grâce. Continue de pousser tes fameux cris de bête, cris fracassants qui résonnent comme des appels au combat ou aux rutes et qui galvanisent le public en fusion de la porte d'Auteuil. Et si jamais tu perds, si tu perds un pied pendant le match, ne t'arrête pas, ne t'arrête surtout pas. Au changement de côté, demande un couteau et coupe l'autre pied pour être radicaux. Et joue sur tes moignons, le drame n'en sera que plus beau. C'est peut-être ton dernier match à Roland-Garros, alors lâche-toi, lâche tes coups, hurle s'il le faut, cogne sur les ramasseurs de balles, vise Djoko si nécessaire, car lui, il fera pas de cadeau. Oh non, il t'en fera pas, parce qu'il est serbe, il est cruel, il veut ta mort, sache-le, Rafa, sache-le, fais-lui bouffer la terre battue du central, si besoin, les géraniums aussi. Vas-y, Rafa, vas-y, bon Dieu, vamos, cabron. J'aimerais tant qu'il gagne, mais je n'y crois guère. Mais qu'il gagne ou qu'il perde, rien que pour le combat à venir ce soir, c'est bien Rafa, mon héros du jour. Alors vive la République, vive la France, viva el Rafa.
Merci Daniel. Et à Roland-Garros, il y a le Danois Holger Rune là qui a battu Tsitsipas et qui
19 ans lui aussi,
impressionnant. Impressionnant, avec des balles de dingue. Alors justement, tiens, est-ce que des sujets comme Roland-Garros ou comme la Coupe du Monde de football sont des sujets à bande dessinée? Est-ce que ça peut être un projet là aussi de suivre... Alors, c'était Les Yeux dans les Bleus, le documentaire de Stéphane Meunier en 98, mais est-ce que ça pourrait être aussi par le prisme d'un carnet de bord dessiné?
Complètement.
C'est ce que j'ai fait. Alors, pas la Coupe du Monde, par contre. Parce que moi,
Je dis on parce que...
Vous voulez pas aller au Qatar, c'est ça?
Voilà.
Bah voilà. Parce qu'on a des projets, voilà, Louison et puis le reste de la bande. Et donc, comme on s'est très bien entendu, on a envie de continuer, mais pas que sur la politique. Et en effet, une compétition sportive ou un truc comme ça, c'est passionnant de raconter, encore une fois, les coulisses.
Les JO?
Pourquoi pas?
Mais un pas à domicile.
Un tour de France aussi, c'est-à-dire que l'idée, un sujet dès l'instant où il y a différents points de vue qui peuvent s'exprimer avec un climax et un final obligatoire, c'est-à-dire une coupe, une médaille, un trophée ou un final, il faut qu'il y ait un but en tout cas, il faut pas que ce soit
et puis que ça engage aussi les lecteurs et que ce soit associé à un événement que eux connaissent, mais d'un certain point de vue qu'on a l'habitude de voir dans.
Alors ça ne dit pas ce que vous avez décidé, alors vous avez choisi.
On peut pas en parler encore.
Oh, ça va, Mathieu. Mais ça va, ça passe pas à la radio, c'est bon, allez-y.
Riyad Satouf, il nous dit plus de trucs. Hein.
Voilà. C'est foot? C'est du foot? Non, mais dites pas quelle
c'est
est la
pas compète.
C'est pas du foot.
C'est du curling.
Rugby. Ouais. Le tournoi destination.
Non, mais vraiment.
Mais c'est génial, c'est le tournoi destination, vous êtes 6. Ben
voilà. Bien joué.
Une nation chacun, chacune.
Ah, la Coupe du Monde de rugby, ouais.
Ouais. Donc on reviendra en parler avec grand plaisir.
Non, violence.
On verra ça avec Riyad Satouf.
Moi, si Riyad Satouf me dit de vous invite, sinon vous savez comment on est, nous.
Bah oui.
Ok, d'accord. Je suis un peu vexé. Tant pis. Autres excuses à présenter, Daniel Morin.
Absolument. Désolé pour le CSA qui, ce matin, a reçu de multiples signalements concernant l'émission d'aujourd'hui. Émission qui a défendu en vrac l'alcool, la consommation de drogue, la trahison des offs. France Inter, on peut être fier de nous.
La trahison des offs.
Désolé pour les fans de Nagui qui ont vu ce matin leur idole sombrer. Ouais, on avait l'habitude des questions sans fin et sans sens. On connaît son amour douteux des castings de films. Et ce matin, on a découvert qu'il pouvait confondre Morgane Cadignan et Paul Mirabel, Louison et Adèle. Voilà, c'est ce qu'on appelle
la
le
fin.
Bout de course,
on appelle
le,
ça la
ou
fin.
Le fond du saut, c'est ou ça. La sortie de route. Fin de vie peut-être. Désolé pour Madame Albarn et Monsieur Cadour qui ont compris ce matin qu'ils devaient peut-être un peu plus surveiller leur conjoint. Alors oui, manque cruel d'honnêteté, mais ça reste chic quand même. Ah bah l'adultère, quand c'est people, là, c'est plus de la trahison, c'est de l'art de vivre. Chic toujours. Demain, on va recevoir le tout nous récemment moliérisé.
Exactement, Vincent de Dienne.
Ah, oui.
Merci Louison, merci Mathieu Sabat.
Merci.
Carnet de campagne avec en plus de nos deux invités, Dorothée de Montfred, Coco Pello, Lara et Morgane Navarro. Carnet de campagne, c'est la bande dessinée chez Dargaud. Mais c'est aussi Philippe Bertrand. Bonjour Philippe.
Salut les amis.
Ils vous ont demandé autorisation de...
Non, bah, j'ai fait le plus long teasing de l'histoire. Ça fait 16 ans que j'annonce la BD. Il faut attendre mai 2022 pour qu'elle sorte enfin.
Ah là, c'est le climax. Tout ça pour arriver à l'émission d'aujourd'hui. Bonne émission, Philippe.
Salut.